Bonjour, bonjour à tous, bienvenue aux voix de service du mardi 17 octobre. Il fait frais dehors, il y en a qui ont un peu plus chaud, c'est Michel Audet qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais que nous saluons, qui est en voyage en Espagne, avec des températures un peu plus chaleureuses qu'ici, et c'est ça,
oui.
Estival. Mais chaleureux, ça va l'être quand même ici, parce que comme vous l'avez entendu dans le studio, je suis en compagnie de ma chère collaboratrice avec qui nous allons traiter une foultitude de sujets. Bonjour Sylvie, comment allez-vous?
Bonjour Louis, ça va très bien, merci, et toi?
Très bien, très bien. C'est Louis de Bernis qui vous parle, effectivement. Qu'avons-nous au menu aujourd'hui, Sylvie?
Mais comme c'est mardi, on va parler de mode et d'alimentation. Plus spécifiquement, la mode du spinning en Chine. On va parler aussi de la possibilité d'exercer votre créativité sur des chaussures de sport. Et il sera question d'un nouveau défi pour les boîtes à lunch.
Merveilleux ça. Avec moi, nous aurons comme d'habitude des sujets insolites, des sujets qui détonnent, qui étonnent. On parlera notamment d'un record de vitesse qui a été battu sans trop qu'on s'en aperçoive la semaine dernière. Également de courses à citrouille, de faux billets de 100$ ou de comment voyager depuis son canapé. Ne bougez pas, tout ceci dans quelques instants. Et allons-y Sylvie avec le premier sujet.
On s'en va en Chine. Do you spin Chinese? C'est une expérience de Geneviève Lefebvre qui était en collaboration avec la presse. J'ai bien essayé de courir dehors à Pékin. Trois coins de rue plus tard, entre 15 tours et 5 chantiers de construction, la Chine est une machine à construire, j'avais la bouche pleine d'un gravier noir dégueulasse. J'ai donc pris mon courage et mon petit traité de mandarin à deux mains et je me suis inscrite à un gym. Je vivais à Daxing, couronne éloignée du centre-ville de Pékin et zone industrielle. À Daxing, pas de palais impérial, pas de jardin princier, pas de temple millénaire, pas l'ombre d'un café branché, d'une exposition sympa ou d'un nightlife débridé. Même pas d'étrangers. Pour voir des expatriés, te faire servir des mojitos sur la rue, manger japonais, lituanien, américain, tu dois prendre le métro, 18 000 stations plus loin. Et tu vas dans le quartier Sanlitun, la mecque des hipster chic pékinois, où il y a plus de Français au mètre carré que sur le plateau Mont-Royal. Daxing, c'est brossard sur les amphétamines, des parcs pour les enfants et les vieux, des tours d'habitation, un McDo qui sert des dumplings, et une multitude de petits commerces de services, dont la proverbiale buanderie qu'on dirait dessinée par Hergé, et d'où les chemises ressortent blanchies, amidonnées et repassées à la perfection pour 3 sous et quart, grand sourire pas dedans en prime. Le gym que je fréquente est au 13e étage d'un immeuble, qui doit tout aux architectes staliniens. À l'intérieur, des affiches délavées montrent des couples à paillettes façon patineur artistique. En Chine, on danse. On danse partout et social. En bas de l'immeuble où j'habitais, il y a un local vide avec des grandes vitrines où des femmes agitent de grands éventails rouges en dansant. De la rue, on dirait des poissons exotiques dans un bocal. Pour aller au local de spinning, il faut traverser le gym. Les gars de la section poids et haltères sont impressionnants de muscles et d'impudeur. Ils enlèvent leur chandail dès qu'une fille passe par leur section. Ils ne sont pas les seuls. Tous les hommes chinois enlèvent leur chandail à la moindre occasion. Au parc, 15 petits vieux ont fièrement démontré leur absence totale de pudeur et de gras de bédaine en laissant tomber la chemise. La Chine est en forme, sachez-le. La salle de spinning est un vibrant hommage aux belles années de John Travolta. Velours prune pour les épais rideaux, boule disco, blacklight et vélo stationnaire façon vieille Lada au siège défoncé. Le coach, que je surnomme immédiatement « chef suprême », est bâti comme un pitbull et déjà en sueur. Son style, militaire sociopathe. Chef suprême arbore des expressions faciales dignes des pires méchants de Kubrick et Tarantino réunis. Sa voix tonitruante ne laisse aucun doute sur la distribution du pouvoir. C'est toi, chef. Dans le sauna qui sert de local, le rythme est forcené, brutal, à peine moins terrible que l'odeur des corps qui suent dans un endroit dépourvu d'air et de climatisation. Qu'il en meure 10 pendant la séance, franchement, mes chéris, c'est le moindre des soucis de chef suprême. Perdre des soldats au combat quand on est 1 milliard, tout le monde s'en fout. Note à moi-même, l'Occident avec sa propension au burn-out et son maigre 35 heures semaine, ainsi que son navrant désir de protéger la vie humaine, est condamné. Eux, non seulement ils ont été élevés dans des classes de spinning avec des tas de chefs suprêmes aux commandes, mais ils ont les chiffres de leur bord. Mes partenaires de souffrance chantent en même temps qu'ils pédalent. Ils connaissent toutes les chansons, un psychédélique mélange d'hymnes communistes et de pop ukrainienne. Ils préféreraient se défenestrer plutôt que d'afficher qu'ils sont en train de mourir embaumés dans leur propre sueur. Alors ils chantent, stoïques. Je prends bonne note que plus ton seuil de tolérance à l'effort est grand, moins tu chignes sur les petites affaires. Dans la rue, les Chinois rient. À l'épicerie, les Chinois rient. Et au gym, les Chinois rient. C'est un peuple qui sait se bidonner. Tout à coup, entre deux hymnes chantant glorieusement les joies du travail et du sacrifice collectif, j'entends Corey Hart. Un petit gars de mon pays, mais qu'est-ce que Corey Hart a bien pu faire pour se retrouver dans une playlist communiste? J'en ai aucune idée, mais c'est le moment ou jamais de prouver que nous aussi, malgré nos petites natures d'occidentaux, on sait rendre gloire au prolétariat. So I put my sunglasses on et je pédale comme une forcenée et je chante ma vie. Tellement qu'en sortant du cours, chef suprême m'a demandé si, par hasard, je connaissais Julie Mas. Alors voilà comment conquérir chef suprême. Et l'article se termine en présentant des centres d'entraînement les plus luxueux de Montréal. J'en ai retenu juste un par curiosité que je vous présente. C'est le club sportif MAA, l'Association des athlètes amateurs de Montréal. Fondé en 1881, le MAA est le plus vieux club sportif en Amérique du Nord. Installé dans une bâtisse de 1905, le club est un amalgame d'histoire et de modernité. Le gym est tout ce qu'il y a de plus contemporain, alors que la piscine, construite en 1905, est la plus vieille en Amérique du Nord. Original et innovant, le MAA est souvent le premier établissement sportif de Montréal, ou même du monde, à offrir certains cours. En 2008, par exemple, le club avait lancé les cours de « Jukari Fit to Fly », un programme d'entraînement élaboré par Reebok et le Cirque du Soleil. Et plus récemment, les membres ont profité de l'exclusivité sur les cours de yoga aérien et d'aquaphysique, une série d'exercices réalisés en équilibre sur un matelas pneumatique. En plus d'avoir mis sur pied une clinique de médecine sportive complète et de miser sur une équipe de plus de 20 entraîneurs et kinésiologues, le MAA attire de nombreux professionnels de la danse et des circassiens de métier. Dans son gymnase multisport et dans ses 4 studios, le club propose une vaste programmation d'une centaine d'activités. Si ça vous intéresse, c'est sur la rue Peel, entre Sherbrooke et le boulevard Maisonneuve.
Et rien qu'en vous écoutant, j'ai l'impression d'avoir perdu quelques livres déjà. Merci, Sylvie.
Alors, de la Chine à Montréal.
La Chine à l'Espagne, où je vous emmène, et plus précisément en Catalogne, qui fait partie de l'actualité, c'est peu de le dire, en ce moment. Mais au milieu de toute cette situation assez complexe, il faut bien le dire, difficile de suivre parfois ce qui se passe, ce qui se dit. Et au milieu de tout ça, heureusement, Internet est là pour nous rappeler ce qui se passe, même brièvement. Sur Internet, la République indépendante de Catalogne aura existé, oui, pendant moins d'une minute. L'existence éphémère de l'État a été instantanément gravée parce que Internet n'oublie rien et surtout pas les épiphénomènes. Avant qu'on se soit rendu compte que la proclamation d'indépendance de République de Catalogne n'en était pas vraiment une, l'existence passagère de cet État avait été instantanément gravée parce qu'Internet n'oublie rien. Lorsqu'il prend la parole le 10 octobre, le président catalan, Carles Puigdemont, a participé à la signature de la proclamation au Parlement local. Il commence par dire, solennellement, « La Catalogne a gagné le droit d'être un État indépendant. Ce moment est exceptionnel et historique, et la conséquence politique du vote du référendum du 1er octobre. Mais dans la phrase qui suit, il dit « Le gouvernement catalan et moi-même proposons que le Parlement suspende les effets d'une déclaration d'indépendance afin de pouvoir engager dans les prochains jours un dialogue. » Méli Mélo. Le site internet d'El País a repassé la séquence avec un chronomètre en main. La déclaration a duré en tout précisément 56 secondes. La fin de la première phrase a été suivie de 34 secondes d'applaudissements. Puigdemont a continué son discours, la phrase suivante qu'il a prononcée en 22 secondes confirmait la suspension de l'indépendance qu'il venait de proclamer. Comment raconter ce court instant autrement qu'avec le discours enregistré lui-même? Comment résumer l'euphorie, l'incompréhension et la déception qui se succèdent presque instantanément? Des travailleurs hyperactifs, hyper réactifs surtout, de l'ombre de Wikipédia ont ajouté la très temporaire République de Catalogne sur la page des États souverains à la plus courte durée de vie. Ils lui ont attribué une existence de 8 secondes, ce qui en fait l'État le plus éphémère de l'histoire. La République fédérale de Russie de 1918, occupant la deuxième place, ayant duré 6 heures, loin derrière donc la Catalogne, et le précédent État catalan complétant le podium en 1934 après 9 heures d'existence. L'inscription a vite été effacée par les modérateurs, et une capture d'écran a néanmoins survécu et a essaimé sur les flux sociaux et les fils WhatsApp. La page des États souverains à la plus courte durée de vie n'est disponible que dans une seule autre langue, à part l'anglais, en catalan, où le deuxième Estat català de 2017 apparaissait encore le 11 octobre. Concentré sur une manifestante particulièrement expressive, les réactions ont été multiples, diverses, et si vous avez l'occasion d'aller voir sur Internet, les photos en direct sont assez parlantes. On y voit très bien des chicanes qui émergent suite au court discours, et cela en devient presque des allégories. En ligne, la juxtaposition des photos d'une manifestante qui a fait le tour du monde est devenue la création d'un mème en temps quasiment réel. Vous savez, ces sortes d'images humoristique qui compare deux situations, et bien là, les deux situations se sont produites quasiment en même temps. Ce même a suffi à ceux qui le découvraient dans leur flux pour comprendre l'essence de ce qui s'est passé ce 10 octobre au soir, à savoir lire les analyses, regarder des vidéos et passer en un temps record de l'extase à l'étonnement, l'incompréhension. Voilà pour la situation, je ne pense pas la comprendre plus que vous en ce moment, c'est très confus entre Barcelone et Madrid, mais retenez simplement que nous avons eu un nouvel état sur cette planète en l'espace d'une poignée de secondes la semaine dernière.
C'est la ligne d'histoire où l'original sera plus court que tous les résumés qu'on pourra en faire.
Exactement, les interrogations d'histoire deviennent faciles.
Que c'est lâche, que c'est fâcheux, quelle tragédie, quel tracas. Mon Dieu, que c'est vache, mon amoureux est reparti là-bas. Mon Dieu, que c'est triste, il m'aimait si peu, moi je l'aimais tant, je crois. Mon Dieu, tu t'en fiches, toi tu n'as Dieu que pour une autre que moi. Même si le temps passe, la samba, la samba des jours avec toi, la samba des jours avec toi, la samba de mon cœur qui bat. La samba des jours avec toi, la samba des jours avec toi, la samba de mon cœur qui bat. Samba de mon cœur qui bat. Mon Dieu, que c'est moche, c'est ennuyeux, tu t'es joué de moi. Mon Dieu, que c'est cloche de se dire adieu et Paris est si froid. Si tu existes même un peu, ramène-moi mon âme. samba des jours avec toi, la samba des jours avec toi, la samba de mon cœur qui bat, la samba des jours avec toi, la samba des jours avec toi, la samba de mon cœur qui bat, samba de mon cœur qui bat.
Surprendrez peut-être en vous apprenant le titre de cette pièce, La samba de mon cœur qui bat. C'était Coralie Clément.
Mon cœur qui bat. Eh bien, le cœur est dans le corps. Le corps a parfois besoin d'un petit coup de main. Ça fait beaucoup de parties du corps, ma phrase, pour avoir tous les nutriments dont il a besoin. Je vais vous parler de l'entreprise Santé Bien Cultivée, qui s'est donné la mission de créer des suppléments alimentaires 100% naturels et biologiques, une denrée rare sur le marché. Il s'agit d'une rencontre avec Monica Ruffo, qui a été écrite dans la presse par Evelyne Audet. C'est donc Monica Ruffo qui parle. Tout a commencé il y a 2 ans et demi environ, lorsque j'ai eu un diagnostic de cancer du sein très agressif. J'ai alors commencé à beaucoup me questionner sur mon train de vie. J'ai toujours été très intéressée par tout ce qui est santé, mais là j'ai encore plus porté attention à ce que je mangeais, aux produits que je mettais sur mon corps et aux suppléments que je prenais. Un de mes premiers constats sur les suppléments a été que je n'étais pas capable de lire ce qui était écrit sur les étiquettes. Je suis donc allée voir une pharmacienne pour me faire conseiller. Et à ma grande surprise, elle n'en était pas capable non plus. C'est à ce moment que j'ai su qu'il y avait quelque chose à faire avec cela. Comme j'ai un passé en marketing, j'ai fait des groupes de discussion, j'ai rencontré 750 consommateurs dont le profil était celui de gens vraiment investis dans leur santé. On s'est aperçu que même dans ce groupe d'individus, plusieurs ne connaissaient pas le contenu de leurs suppléments, soit 74 % des gens que j'ai interrogés. J'ai ensuite fait une analyse des étiquettes des 100 produits les plus vendus sur le marché et les constats ont été troublants. Seulement 37 % des ingrédients des étiquettes pouvaient être identifiés comme naturels et pire, 29 % des ingrédients n'étaient pas identifiables du tout. Et ça a été là le réel déclencheur pour moi. Mes produits sont des aliments naturels, biologiques, mis en capsule. La meilleure façon d'aller chercher les nutriments dont on a besoin, c'est en s'alimentant correctement. On préfère donc offrir une formulation qui est plus difficile, voire impossible, à aller chercher avec l'alimentation. Un bon exemple est la vitamine D. En Amérique du Nord, même en s'alimentant correctement, on ne produit pas assez de vitamine D et c'est un aliment essentiel. La plupart des vitamines D qu'on trouve sur le marché proviennent de la laine de mouton. Notre vitamine D se différencie par le fait qu'elle est végétalienne, tout l'on produit le son d'ailleurs, et faite à partir du champignon Portobello, qui est un producteur naturel de vitamine D. On ajoute du quinoa et des épinards, car ils sont pleins de magnésium et aident à l'absorption. Tous nos produits sont certifiés biologiques, sans OGM ni produits synthétiques. Même la membrane de la capsule est naturelle, elle est faite 100% tapioca. C'est la seule substance de capsule autorisée pour avoir la certification biologique. Nous offrons la transparence totale sur nos ingrédients, tout est indiqué sur les bouteilles ainsi que sur notre site web. Tous nos produits sont approuvés par Santé Canada. Il est important de comprendre que nous ne prétendons pas guérir ni traiter aucune maladie avec nos suppléments. Le but est de donner à son corps le plus de nutriments possible pour être en santé, tout simplement. Ce que j'aimerais dire aux gens, c'est de faire attention au mot « naturel » qu'on voit partout. Ce mot n'est présentement pas réglementé au Canada, donc une compagnie peut l'écrire sur son produit, peu importe ce qu'il contient. Je sais que Santé Canada et la Food and Drug Administration aux États-Unis consultent l'industrie et se penchent actuellement sur la définition du mot « naturel » ainsi que sur une réglementation qui s'y rattache. Mais pour l'instant, il faut encore faire attention. Et plutôt que de se fier au mot « naturel » sur les étiquettes, les gens doivent lire la liste des ingrédients, tout simplement. S'ils ne comprennent pas les mots qui y sont, c'est vraiment mauvais signe. C'est donc la fondatrice de l'entreprise Santé Bien Cultivée, Monica Ruffo, qui expliquait les fondements de son entreprise.
Merci, Sylvie. Et après la saine alimentation, pour aller bien, il faut également faire du sport, mais aussi parfois se reposer, c'est ce que je vous propose. Se reposer et voyager en même temps, c'est désormais possible. Vous êtes au fond de votre canapé, mais vous voulez voir des beaux paysages, c'est possible. Bien sûr, c'est possible déjà avec Internet et tout un lot d'images, mais il y a un projet encore plus immersif qui a vu le jour et dont je vous parle. Le parc le plus au nord du Canada, désormais accessible de son salon. Le parc national Khtirapak, je l'ai forcément écorché, mais on essaiera de faire semblant que non, porte bien son nom. Situé dans le nord de l'île d'Ellesmere, dans l'extrême Arctique, il s'agit vraiment du toit du monde. À ces rares visiteurs s'ajouteront maintenant de curieux internautes assouvissant de manière virtuelle leurs rêves de randonnée les plus fous. Pour s'émerveiller devant les paysages accidentés du parc, où s'entrechoquent calottes glaciaires et montagnes en dents de scie, le site web de tourisme Nunavut conseille de prévoir entre 30 000 et 50 000 $. Et ce, seulement pour le vol aller-retour à partir du hameau inuit de Resolute, lui-même déjà au Nunavut. Mais une autre option s'offre dorénavant aux aventuriers moins fortunés. Naviguer sur Google Street View dans le confort de leur salon. Dans le cadre d'un partenariat avec Parc Canada, Google Street View a capté des images de ce parc reculé pour offrir aux internautes une expérience se voulant immersive avec des prises de vue panoramiques qui stimulent une visite réelle. Emma Upton de Parc Canada explique que, dans le cadre de ce projet particulier, la caméra a été montée non pas sur un véhicule, mais sur des randonneurs. Une fois rendu au parc, on est vraiment limité à se déplacer avec ses deux pieds, souligne la gestionnaire du parc, dont les sites archéologiques témoignent de l'arrivée des paléo-esquimaux il y a des millénaires. Un hélicoptère a également été mis à profit pour couvrir une plus grande superficie de ce parc de, tenez-vous bien, 37 000 km². Le tournage s'est étiré sur une seule semaine, en juillet 2016, puisque la lumière se fait rare le reste de l'année, à 800 km seulement du pôle Nord. Notre été, c'est littéralement deux semaines, a raillé Emma Upton, en entrevue téléphonique à partir d'Iqaluit. Elle estime que le parc, le plus au nord du pays, n'accueille pas plus de 25 visiteurs annuellement, sans compter les chercheurs qui y vouent un intérêt particulier. Ça prend du temps, de l'effort et un budget aussi pour y aller en personne, reconnaît Madame Upton. De plus en plus de Canadiens vivent dans les grands centres urbains, nos parcs ne sont pas aussi accessibles qu'on l'aimerait. C'est pourquoi depuis 2013, Parc Canada et Google Street View s'associent pour amener les parcs dans les salons, en arpentant, caméra sur le dos, 150 sites naturels et historiques. Parmi eux figurent notamment la forteresse de Louisbourg et l'habitation de Port-Royal en Nouvelle-Écosse, de même que le parc de Fort-Rion en Gaspésie. Voilà, si vous voulez voir un peu des paysages du pays, c'est désormais possible en quelques clics, grâce à cette belle initiative.
En même temps, ça protège. Parce que ces lieux-là, si ça se mettait très fréquenté, ça perdrait un peu de l'aspect sauvage.
Sauvons la nature en plus de ça.
Eh bien, quand on aura fini de bien explorer avec Google Street, on pourra mettre des chaussures, d'où le lien, des chaussures de sport sorties de votre imaginaire. Lorsque vous magasinez vos espadrilles, le look est-il votre priorité? Êtes-vous un éternel insatisfait? Under Armour a peut-être la solution pour vous avec sa nouveauté, les chaussures personnalisées UA Icon. Si cette innovation vous interpelle, rendez-vous sur le site de l'entreprise pour choisir votre chaussure blanche parmi les modèles offerts pour hommes, femmes et enfants. Puisque le projet n'en est qu'à sa version bêta, seulement 3 modèles sont proposés pour l'instant. Décorez ensuite votre chaussure selon votre goût. Under Armour met à votre disposition un éventail exhaustif de couleurs et vous propose également certains motifs et imprimés des différentes collections des vêtements de l'entreprise afin que vous puissiez agencer vos chaussures à vos vêtements favoris. Si vous êtes pris d'un élan créatif, vous pouvez opter pour une impression de l'image de votre choix sur vos chaussures. Vous n'avez qu'à prendre votre propre photo ou sinon télécharger une image, puis agrandissez ou rétrécissez pour mettre l'accent sur le motif voulu. Votre créativité s'exprimera dans les moindres détails de vos chaussures, de la semelle au lacet, ainsi que du pied gauche au pied droit, car vous pouvez même les dépareiller. Le site web offre tous les outils nécessaires pour la confection personnalisée, en plus d'offrir certains conseils pour optimiser le résultat. Il faut compter entre 170 et 330 $ pour une paire de chaussures personnalisées en fonction du modèle choisi. Toutes les commandes sont expédiées gratuitement par contre. Le délai de livraison est actuellement d'environ 6 semaines pour la version bêta, mais sera écourté dans les prochaines semaines selon l'entreprise.
Une belle idée et je suis curieux de voir à quel point les gens vont pouvoir être créatifs, trouver des choses à mettre à leurs pieds. Peut-être reparlerons-nous de ce sujet dans quelques semaines avec un de mes sujets insolites. Peut-être une personne aura trouvé une manière. Je suis curieux de voir, j'ai hâte de voir ça.
On va suivre ça.
De très près. C'est tout pour la première partie de cette émission. Ne bougez pas, après une courte pause musicale, nous revenons avec encore plus de sujets. À tout de suite.
Is that sweet unresolved? I sing la 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 la. We know we know about me. Boxing ring, and who said that culture can't grow from a whim? My God, there is strength when a cat learns to swim. And what is a king? He screamed at the wind. A king is decisive without and within. They can't make me stumble, they don't give my chin. They told me I'm mumble, so I decided to sing as they
Cette petite valse était une gracieuseté de la formation australienne The Cat Empire.
Valse, c'est la valse la plus ensoleillée que j'ai jamais entendue.
Ça réveille, c'est le moins qu'on puisse dire. Passons à la suite des sujets. J'ai un nouveau sujet pour vous, sujet insolite. Gare aux faux 100 dollars américains. Ça peut arriver.
On en attend.
Eh bien, cette fois-ci, c'est l'origine de ces billets qui est insolite. Vous allez voir, la police de Québec met la population en garde contre de faux billets de 100 dollars américains destinés à l'origine à être utilisés dans l'industrie du cinéma et qui circulent dans la capitale depuis le 6 août. La mise en garde fait suite à l'arrestation d'un suspect pour utilisation de fausses monnaies, le 22 août. L'homme avait en sa possession des billets de 100 dollars qui portent l'inscription « Motion Picture Purposes » dans le haut, au lieu de « The United States of America » et « 100 » à l'arrière, au lieu de « 100 dollars ». L'inscription « In God We Trust » a également est absente de ce billet et Benjamin Franklin semble sourire sur les fausses devises. Voilà autant de petites différences qu'il faut surveiller. D'autres suspects sont toutefois toujours en liberté et d'autres imitations de billets de 100 dollars utilisables seulement pour des tournages seraient cependant encore en circulation à Québec. La police de Québec invite donc la population et les commerçants à être vigilant lorsque les clients utilisent ces gros billets pour acheter des articles à bas prix. Les personnes qui croient être en possession d'un de ces faux billets ou qui croient avoir été en contact avec un suspect sont invitées à communiquer avec la police de Québec. Il y a quelques semaines, des imitations de faux billets de 20 dollars américains avaient été rapportées en Pennsylvanie. En août, la vedette de la série Twilight, le comédien Robert Pattinson, a avoué s'être lui-même fourvoyé lors du tournage l'an dernier du film Good Time, et il avait alors par erreur utilisé des imitations de billets de 100 dollars qu'il avait dans ses poches pour faire de vrais achats. Cependant, en matière d'utilisation d'imitations de dollars destinées au cinéma, rien ne s'approche de cet événement survenu lors du tournage du film Heure Limite 2 à Las Vegas avec Jackie Chan et Chris Tucker en 2000. Après chaque prise d'une scène où un casino explose, des centaines de milliers d'imitations de billets de 100 dollars flottaient dans les airs. Il avait alors fallu plusieurs jours pour compléter le tournage de cette scène, mais plusieurs billets, c'est le moins qu'on puisse dire, avaient été ramassés par des passants ou des figurants, dont certains avaient tenté de les utiliser comme du véritable argent dans divers commerces de Las Vegas. Les services secrets américains avaient même été dépêchés sur place, saisissant plus de 100 millions de dollars d'imitations de dollars et accusant le fabricant Independent Studio Services de production de fausses monnaies. Le propriétaire de l'entreprise a éventuellement dû détruire la totalité de ses stocks d'imitations de billets, soit plusieurs milliards, puisque les services secrets estimaient qu'ils ressemblaient trop à de vrais billets. Et ce même s'il y avait 28 différences par rapport à un billet vert véritable. L'autre firme spécialisée dans l'impression d'imitation de billets, et oui, c'est un métier, pour l'industrie du cinéma, Earl Hayes Press, avait vu ses stocks confisqués en 2000, après qu'un groupe métal avait fait pleuvoir de ses billets sur une foule lors du tournage d'un vidéoclip. Certains des participants avaient tenté d'utiliser les imitations alors que d'autres les avaient mis en vente sur le site d'enchères eBay. La loi américaine stipule que les reproductions de billets doivent être au moins 75% plus petites ou 150% plus grandes que les vrais billets, n'avoir qu'une seule face et une seule couleur par souci de réalisme. Plusieurs maisons de production utilisent alors de vrais billets placés au-dessus d'une pile de billets blancs dans certaines scènes. Voilà pour la fausse monnaie en circulation, méfiez-vous, ayez l'œil.
Mais ils n'ont pas le choix avec HD, IMAX et tout ça. Il faut que le billet soit le plus ressemblant possible.
C'est tout un métier, je vous dis.
On va rester dans le réalisme ici. La boîte à lunch, zéro déchet. L'école est bien démarrée, la préparation des lunchs est bien rodée et il est temps de relever un nouveau défi. C'est un texte de Bernard Lavallée dans La Presse. j'entamais ma collaboration avec la Presse Plus l'an dernier par cette phrase « Je déteste faire mon lunch ». Je travaillais alors de la maison, ce qui m'épargnait cette tâche. Mais voilà, nouveau au tableau, la boîte à lunch a refait son apparition dans ma vie et avec elle une panoplie d'interrogations sur son impact environnemental. Pour répondre à mes questions, je me suis tournée vers une des pionnières du mouvement Zéro déchet au Québec, Mélissa de la Fontaine, qui est conférencière et consultante Zéro déchet pour le Minivert. On n'en sort pas. La première étape de la boîte à lunch Zéro déchet, c'est de dire adieu aux objets jetables. Exit les ustensiles et les sacs de plastique, ainsi que les serviettes de papier. Il existe des tonnes d'innovations dans le domaine pour remplacer ces produits. Mais avant de sortir le portefeuille, l'important est de vous demander si vous en avez vraiment besoin. Mélissa de la Fontaine nous le rappelle, acheter des objets neufs, c'est un peu contre-productif et ce n'est pas toujours cohérent avec la mentalité zéro déchet. En réalité, vous n'avez pas besoin de grand-chose de plus que des ustensiles, une bouteille et des contenants réutilisables, ainsi que des serviettes en tissu. Et la boîte à lunch, elle? Personnellement, j'ai simplement un sac de tissu dans lequel je trimballe mes aliments, car la boîte à lunch classique finit dans la poubelle en fin de vie, raconte Madame de la Fontaine. Évidemment, si vous n'avez pas accès à un réfrigérateur pour entreposer votre repas, investir dans une boîte à lunch de qualité qui durera longtemps et qui garde les aliments bien au frais est probablement une bonne idée. Pour la plupart des achats matériels, la spécialiste recommande de privilégier les objets de seconde main. Outre le matériel, il y a bien sûr le cœur du repas, les aliments, et à l'épicerie, il est facile de réduire ses déchets sans mettre trop d'efforts. On sait qu'à peu près la moitié du gaspillage alimentaire se produit à la maison. Le premier conseil pour jeter moins d'aliments est de n'acheter que ce dont on a réellement besoin. Planifier le contenu de la boîte à lunch est un geste essentiel pour se procurer le strict nécessaire et moins nourrir sa poubelle. Pour réduire les emballages, privilégiez le vrac. Il y a de plus en plus de commerces spécialisés qui offrent des aliments ainsi, mais certains supermarchés surfent également sur la vague. Quand c'est pas possible, on essaie de choisir l'emballage le moins nocif. Par exemple, on opterait pour des pâtes dans du carton plutôt que du plastique, suggère Madame La Fontaine. En ce sens, se tourner vers les contenants en gros format, lorsque cela correspond à nos besoins bien sûr, permet de réduire la quantité de déchets produits. Par exemple, les portions individuelles de yogourt, de lait, de boissons végétales ou de fromage peuvent s'avérer pratiques, mais on privilégie plutôt un gros format qu'on sépare ensuite à la maison. Au lieu du pain tranché pour vos sandwichs, vous pouvez en acheter un à la boulangerie que vous glissez dans un sac de tissu. Il suffit de le trancher soi-même ou même de demander au boulanger de le faire. Les fruits et légumes déjà coupés font gagner du temps, c'est vrai, mais ils coûtent beaucoup plus cher et sont presque toujours emballés dans du plastique. En prenant une heure pour préparer tous vos légumes et vos fruits de la semaine, vous diminuerez ainsi les emballages superflus et paierez une fraction du prix. Et en plus, vous pourrez profiter pour jeter les retailles au compost. Le rayon des collations regorge d'aliments emballés individuellement. Cuisiner vos propres muffins, barres tendres, boules d'énergie ou barres granola demande certes un peu plus de temps, mais il est possible d'être efficace en préparant des grandes quantités et vous les congelez. Vous pouvez également préparer des mélanges de noix, de graines et de fruits séchés avec des aliments en vrac. On a souvent l'impression que pour être zéro déchet, il faut être capable de terminer son année avec un petit sac d'ordures. Pourtant, nul besoin d'être dogmatique pour adhérer au mouvement. Selon Mélissa de la Fontaine, pratiquer le zéro déchet, c'est tendre vers des habitudes qui vont permettre de réduire la consommation et les déchets que nous produisons. Bref, c'est adopter, un à la fois, un ensemble de petits gestes anodins qui permettront de réduire ce qu'on envoie au dépotoir. Voilà pour de sages habitudes.
Un article très probablement inspiré du salon qu'il y avait la fin de semaine passée.
C'est la fin de semaine passée,
Zéro déchet, oui, qui avait lieu dans le Vieux-Port. Si ça vous intéresse, il sera de retour très certainement l'an prochain, donc surveillez ça.
Merci.
Petite chronique nécrologique, rassurez-vous, rien de dramatique.
Personne
qu'on connaît, pas nous. Les Japonais, oui, mais pas nous. Et puis l'individu est mort de vieillesse, calmement.
Ah.
Donc tout va bien. Le Japon pleure son manchot amoureux. Un vieux manchot qui était devenu célèbre au Japon après être tombé amoureux d'une réplique en carton d'un personnage de dessin animé est mort de maladie à l'âge avancé de 21 ans, a annoncé le zoo de Tōbu dans la ville de Saitama, au nord du Japon. Ce manchot de Humboldt, nommé Petit Raisin, était devenu célèbre en début d'année lorsqu'il était visiblement tombé amoureux de l'image en carton d'Ouloulou, la célèbre héroïne de dessin animé, après avoir été abandonnée par sa compagne en début d'année. On pouvait voir Petit Raisin passer des heures entières à contempler amoureusement l'image d'Ouloulou, et son histoire a vite explosé sur les réseaux sociaux. Une file ininterrompue de visiteurs défilait samedi devant l'enclos des manchots du zoo, beaucoup apportant des fleurs. Petit Raisin, dont l'âge équivaut en âge humain à environ 80 ans, est mort avec son nouveau compagnon à ses côtés, a expliqué aux médias locaux le soigneur des manchots. Nous lui avons mis l'image en carton à côté de lui pour lui tenir compagnie jusqu'au bout. Voilà, que le petit manchot repose en paix.
C'est une nécrologie bien particulière.
Absolument.
C'était Yann Perrault et la pièce « Ma dope à moi ».«
Ma dope à moi ». Les voyages, non? Louis nous a emmenés tout à l'heure dans le Grand Nord. Je vous amène sur la Côte-Nord, un petit peu moins loin. Qu'est-ce qui a la forme d'une framboise, la couleur d'un abricot et le côté acidulé d'une groseille? Je vous le dis parce que vous ne le trouverez pas.
Ah oui, non.
À moins que vous ne soyez fin connaisseur de la Côte-Nord, il est peu probable que vous trouviez la réponse. C'est la chicoutée qui a encore du chemin à faire avant de se tailler une place parmi les vedettes des petits fruits. Pourtant, il se décline en divers produits, tous plus alléchants les uns que les autres. C'est un article de Sylvain Sarrazin dans La Presse. Ce petit fruit du Nord porte les noms les plus divers. La mûre des marais, la plaquebière, mais il reste connu au Québec sous l'appellation de chicoutée. Qu'importe, son goût demeure le même, foncièrement acidulé, combiné à une texture grasse et juteuse. Mais ce ne sera pas facile de se le mettre sous la dent dans sa forme brute, à moins d'être de passage ou de vivre sur la côte nord où il abonde. Il est tout à fait possible de le déguster frais, c'est bourré de vitamines, assure Robert Duguay, qui est à la tête de la Maison de la Chicoutée à Rivière-Saint-Jean, où se vendent différents produits conçus à base du petit fruit. En revanche, comme il est très acide, l'ajout de sucre est habituel au cours de sa transformation, donnant des gelées, des confitures ou des compotes. Autant de produits qui seront plus faciles à dénicher dans les marchés et épiceries du terroir du Sud. C'est nous le Sud. Parlez-en donc au chocolatier Yannick Belzil, qui concocte depuis 18 ans des douceurs garnies de chicoutée. Elle s'accorde particulièrement bien avec le chocolat noir, dont l'amertume fait ressortir l'acidité et le côté agrume. En bouche, c'est un goût très spécifique, souligne l'artisan de Chocobel à Montréal. Cette saveur unique dispose également d'un spectre aromatique éminemment large, parvenant à réaliser le grand écart entre la crème glacée et les fruits de mer. Toujours selon Robert Duguay, le coulis de chicoutée sur une crème glacée à la vanille, ça vient chercher le goût de notre enfance. Quant au beurre de chicoutée, il est excellent avec les pétoncles. Ces caractéristiques n'ont pas échappé à mes chefs cuisiniers qui le servent pour les desserts, la confiture pour coiffer la viande de serre ou pour en garnir des filets de saumon avec du coulis. Toujours à la recherche de nouvelles déclinaisons, M. Duguay a dernièrement développé une tisane à partir des feuilles de la plante. On espère toutefois que le flambeau des boissons alcoolisées à base de chicoutée sera bientôt repris. En effet, la liqueur qui était naguère sur le marché est devenue introuvable et de nouveaux brassins de la bière L'Or des Marais, produite par la brasserie Dieu du Ciel, ne sont pas encore à l'ordre du jour. Où pouvez-vous trouver ce fruit ici? La confiture est surtout répandue dans les épiceries fines. On en trouve au Jardin Sauvage, au marché Jean Talon, et les chocolats sont offerts toute l'année chez Chocobel. Et si on échoue à trouver les autres produits, la vente en ligne demeure une bonne solution. Mmh. Vive Internet, encore une fois.
Alléchant, à découvrir. Poursuivons avec tout ce qui est fruits et légumes. Je vous parle de quelque chose qui est un petit peu plus connu. Je ne vais pas vous faire découvrir grand-chose, la citrouille.
Ah, quand même.
En revanche, ce que je vais vous faire découvrir, c'est un nouvel usage qu'on peut en faire, pour le moins insolite. Faire la course dans une citrouille. À Bécancour, une vingtaine de navigateurs du dimanche ont pris part samedi à la 17e édition des régates du Potiroton de Gentilly. À bord de grosses citrouilles, ils ont fait la course sur une distance d'un kilomètre sur la rivière Bécancour. Les gigantesques fruits, dont plusieurs avaient participé à la pesée officielle du festival annuel, ont été creusés pour permettre aux navigateurs d'y prendre place. Certaines citrouilles étaient si grosses que deux personnes pouvaient monter à bord. Charlie Auger est une navigatrice de citrouilles d'expérience. Malgré son jeune âge, elle en était samedi à sa 7e course des régates du Potiroton. « J'espère me rendre à 10. Si je ne coule pas cette année, je devrais me rendre à 10 courses », lançait-elle à la blague quelques instants avant de prendre le départ de celle qui a concouru dans une citrouille de près de 500 livres tout de même. Qui a dit que c'était facile de parcourir 1 km à bord d'une citrouille géante? Bien qu'il soit délicieux en tarte, ce fruit n'a pas de propriété hydrodynamique. En réalité, il est tout le contraire de ce principe de physique. Et ce n'est pas un sport totalement inoffensif que de faire de la navigation dans une citrouille. Durant sa longue carrière, Charlie Auger a été témoin de plusieurs naufrages. Heureusement, les naufrages qui ont compromis les chances seulement de terminer la course et qui ont donné un petit coup à la fierté, mais rien de plus. La rivière n'est pas toujours profonde, il y a certains endroits avec plus de sable que d'eau. Témoigne Charlie Auger, le défi, quand tu restes pris ou que tu tombes, c'est de rembarquer. On s'entend, ce n'est pas un kayak, c'est une citrouille, ce n'est pas ce qu'il y a de plus stable. Fin de citation. Lors du passage du Nouvelliste à cette course loufoque, quelques embarcations avaient d'ailleurs du mal à se tenir à flot. Samedi, les conditions de navigation étaient toutefois très favorables, l'eau n'était pas trop froide et le courant était suffisamment présent pour permettre aux compétiteurs de le suivre. Même si cette course n'est pas trop prise au sérieux, le gagnant remporte un trophée et la reconnaissance des autres. La première position revient donc cette année à José-Pierre Desautels avec un rapide temps de 14 minutes et 16 secondes. Dès les premières centaines de mètres, le navigateur de grosse citrouille filait à vive allure vers la victoire. Le podium a été complété par Joël Weber et Alexandre Moreau. Félicitations à tous.
Course de saison. On va passer des citrouilles au restaurant. Le plus grand restaurant au pays. Difficile de ne pas être impressionné en entrant dans l'enceinte de la toute nouvelle 1909 Taverne Moderne, le projet du Canadien de Montréal. C'est que l'endroit, immense avec ses trois niveaux, son énorme écran géant et ses 1400 places assises, n'est rien de moins que le plus grand restaurant au pays. On s'adresse évidemment à une clientèle férue de sport, pardon, mais avec l'intention de plaire à tout un chacun, dans un décor sobre et industriel, et un menu signé par le chef Jean-François Giguère, qu'on a connu au Toki, par exemple. Ce dernier fait le pari de faire rimer taverne sportive avec fraîcheur, fait maison et approvisionnement local. Sa carte offre des classiques du genre, comme les ailes de poulet, les burgers et les steaks, mais s'aventure aussi du côté d'une cuisine bistrot plus raffinée. L'adresse sera sans nul doute le nouveau repère des fans du Canadien, mais aussi la clientèle du centre-ville, avec une cuisine qui est ouverte tard le soir et une sélection de 40 bières. À la suite, il y aura le Petit Frère avec ses 800 places à la Place Belle de Laval, quelque part cet hiver. Donc c'est au 1280 l'avenue des Canadiens de Montréal pour aller célébrer avec les fans.
Que ça passe vite une heure, déjà à la fin de cette émission, après toutes ces nouvelles. Merci à Sylvie Dillon pour ses textes, ses lectures. Merci à Jean-Sébastien Laliberté pour toute la musique, tout ce réveil en fanfare.
Et merci à Louis de Bernis pour l'animation et les insolites.
Avec plaisir, vous retrouvez dans quelques instants Hélène Denis avec les actualités. Nous retrouvons la semaine prochaine, à nouveau sans Michel, que nous saluons, qui sera de retour dans deux ou trois semaines, ne vous inquiétez pas. Bonne semaine à tous.